Laudetur Jesus Christus.
Les États-Unis de Donald Trump mettent une pause dans leur guerre commerciale avec le Mexique et le Canada. Les taxes aux importations de 25% sont pour l'heure repoussées pour un mois, le temps de négocier. Un soulagement pour les deux pays voisins, direction Mexico, au début de ce journal. Parmi les mesures spectaculaires prises par la nouvelle administration américaine, le démantèlement de l'USAID, l'agence américaine qui finance de nombreux projets de développement dans le monde, en Afrique notamment. À la une de ce journal également, reportage en Syrie où certaines villes, la majorité arabe, demande à être administrée par le nouveau gouvernement intérimaire de Damas. Et puis nous irons aussi au Soudan du Sud où les églises du pays poursuivent leur travail en faveur de la paix et de la réconciliation dans un pays encore déchiré par de nombreuses violences.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour. Une pause dans l'application des droits de douane exigée par les États-Unis envers ses voisins mexicains et canadiens. L'entrée en vigueur des taxes de 25% à l'importation des produits venant des deux pays devait avoir lieu ce mardi. Mais Donald Trump a décidé un sursis de 30 jours pour donner une chance à des négociations. Côté mexicain, c'est une conversation téléphonique entre la présidente Claudia Sheinbaum et le président américain jugé positif qui a débloqué au moins temporairement la situation. La correspondance à Mexico. Mexico de Diego Calmar.
Après des semaines de saillie médiatique, il aura finalement fallu un coup de fil entre Claudia Sheinbaum et Donald Trump pour marquer une pause dans cette guerre commerciale menée par le nouveau président américain. Lors de sa traditionnelle conférence de presse matinale à Mexico, Sheinbaum a annoncé le report des taxes à hauteur de 25% promises par Donald Trump. Des tarifs douaniers qui affecteraient l'économie mexicaine, dont 80% des exportations se font vers le voisin du Nord. En échange, le Mexique va déployer 10 000 soldats le long de sa frontière pour freiner encore plus le trafic de drogue vers les États-Unis, qui de leur côté s'engagent à lutter contre le trafic d'armes qui renforce les cartels mexicains. Dans la foulée de ce pas en arrière par Trump, le cours du peso a bondi, la monnaie mexicaine est ressortie renforcée. Mais au Mexique, on ne crie pas encore victoire, de nouvelles menaces de Trump ne sont pas à exclure d'ici le 1er mars. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
La Chine, elle est aussi concernée par la hausse des droits de douanes américains et la guerre commerciale semble véritablement lancée. Pékin a annoncé sa riposte ce mardi matin, annonçant taxer de 10% les importations d'hydrocarbures américains ou encore les machines agricoles. La Chine qui a par ailleurs déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis on a appris que Pékin avait aussi annoncé ouvrir une enquête contre Google qu'elle dit est soupçonnée d'avoir enfreint sa réglementation anti-monopole. Parmi les mesures spectaculaires prises par la nouvelle administration Trump, le démantèlement de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, agence créée en 1961 par John Fitzgerald Kennedy, qui permet de financer des programmes dans de nombreux pays, sur le continent africain notamment. Avant sa fermeture annoncée par Elon Musk, chargé de sabrer dans les dépenses fédérales, l'USAID passe sous le contrôle du nouveau secrétaire d'État Marco Rubio. Les précisions de notre correspondant à New York, Loïc Loury.
Mettre fin à l'insubordination au sein de l'USAID, c'est la mission que se donne Marco Rubio à la tête de l'agence. Certaines de ses activités se poursuivront, dit-il, mais l'institution doit s'aligner avec les intérêts nationaux. L'agence est supposée répondre aux directives du département d'État et elle refuse. L'USAID a pour habitude d'ignorer les ordres et se prend pour un organisme caritatif indépendant. Mais on parle d'argent public. Une mise au pas orchestrée notamment par Elon Musk qui affirmait hier matin avoir reçu l'aval de Donald Trump pour fermer l'USAID, l'homme le plus riche du monde, aux commandes d'un département de l'efficacité gouvernementale a multiplié les attaques contre l'agence. Ce qu'on a là, ce n'est pas une pomme avec un verre dedans, c'est une boule de verre. Il faut se débarrasser de l'ensemble, ça doit disparaître. L'USAID est irréparable. L'USAID sera-t-elle démantelée et absorbée par le département d'État? Le plan de l'administration l'administration n'est pas clair, mais l'agence devrait voir ses activités réduites. L'avenir est sombre pour ce qui était l'un des instruments clés du soft power américain partout dans le monde. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Une visite très scrutée ce mardi chez le nouveau président américain, celle de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, avec comme enjeu majeur l'avenir du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais également le dossier du nucléaire iranien. Alors que le dirigeant de l'État hébreu est aux États-Unis, les opérations militaires de l'armée israélienne se poursuivent, elles, dans le camp palestinien de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Le camp qui se dirige vers une catastrophe, s'alarme l'UNRWA, l'agence nationale de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Partons à présent en Syrie, où depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, il y a bientôt 2 mois, le contrôle du nord-est du pays par les forces démocratiques syriennes, à majorité kurde, est de plus en plus contesté. Plusieurs villes, à majorité arabe, demandent en effet à être administrées par le nouveau gouvernement intérimaire d'Ahmed al-Shara. Une manifestation était d'ailleurs organisée le week-end dernier à Damas. Reportage de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
La place des Omeyyades est inondée du drapeau vert et noir de la Nouvelle-Syrie. Des dizaines de familles, pour la plupart originaires du nord-est syrien, se sont réunies là pour demander le départ des forces démocratiques syriennes, comme Mouata et son frère Ahmed, arrivés de Deir ez-Zor.
Nous sommes ici pour demander la libération de l'est de la Syrie, de Deir ez-Zor, de Raqqa. Nous souhaitons que la Syrie soit unifiée, que tous les habitants, tous les organes soient intégrés à la Nouvelle-Syrie. Nous voulons un seul pays, un pays démocratique.
La plupart des familles présentes sont arabes, s'opposent au contrôle des forces démocratiques syriennes à majorité kurde. Sur les réseaux sociaux, les messages hostiles se multiplient quand dans la région, les tensions entre les deux communautés sont de plus en plus visibles, explique Khaled.
Nous attendons du nouveau gouvernement syrien qu'ils expulsent les mercenaires. Nous soutenons Ahmed al-Shara plus que quiconque, car il vit pour l'État, pour le peuple syrien. Nous organiserons des manifestations quotidiennes pour demander leur départ. Et s'il n'y a pas de solution, nous utiliserons les armes.
Plus qu'aux Kurdes eux-mêmes, c'est aux groupes armés du PKK et du YPG que ces Syriens sunnites s'opposent.
Ils sont originaires des monts Kandit, d'Irak, d'Iran. Leur nation n'est pas syrienne, ils occupent notre région. Ils nous prennent notre argent, notre pétrole, nos hydrocarbures et nos terres agricoles. La moitié des ressources de la Syrie se trouve dans cette région.
Pour le nouveau gouvernement de Damas, le contrôle des champs gaziers et pétroliers de la région est primordial et sera l'enjeu principal des négociations avec les autorités de l'administration autonome du Nord et de l'Est syrien dans les prochaines semaines. À Damas, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Le président intérimaire syrien Ahmed al-Shara qui est lui en visite en Turquie ce mardi. Son deuxième déplacement officiel après l'Arabie Saoudite. Les deux pays, Turquie et Syrie, qui partagent plus de 900 km de frontières communes. Ankara qui compte bien jouer un rôle clé dans l'avenir de la nouvelle Syrie. Ahmed al-Shara qui sera reçu par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Un sommet régional se tiendra samedi prochain en Tanzanie pour évoquer la guerre qui déchire les provinces du Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Seront présents les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, dont les troupes armées appuient la milice du M23. Le groupe armé qui a annoncé ces dernières heures un cessez-le-feu humanitaire. Le M23 qui annonce également n'avoir aucune intention de prendre le contrôle de la ville de Bukavu, d'autres localités. Un autre conflit sur le continent africain ne fait plus la une de l'actualité. C'est celui qui déstabilise le Soudan du Sud, plus jeune nation du monde, un pays qu'avait visité le pape François il y a 2 ans et dans lequel les églises poursuivent leur engagement pour la paix et la réconciliation. Ainsi, le Conseil des Églises au Soudan du Sud vient de mettre au point un manuel pour tenter d'enrayer la spirale de violence. Les détails de notre correspondante régionale Augustine Passy.
L'idée d'une brochure pour promouvoir la paix au Soudan du Sud est née en 2022, puis elle a refait surface début 2023, au moment du pèlerinage œcuménique pour la paix du pape François, accompagné à Djouba de l'archevêque de Canterbury et du modérateur de l'église d'Écosse. Le 27 janvier, les représentants du Conseil des églises du Soudan du Sud et de l'agence de paix néerlandaise PAX ont présenté le fruit de ces mois de travail. Ce nouveau manuel propose des méthodes et des outils non violents de résolution des conflits. Sa particularité consiste à s'adapter au contexte sud-soudanais avec des exemples précis issus des différentes régions du pays. Nous voulons briser cette culture selon laquelle la plupart des gens pensent que les Sud-Soudanais sont des communautés violentes, a expliqué Emmanuel Ira, le directeur de PAX au Soudan du Sud. Depuis son indépendance en 2011, la plus jeune nation du monde ne parvient pas en effet à s'extraire de cycles sans fin de violence malgré l'arrêt officiel de la guerre civile en 2018. Le processus de paix avec les groupes d'opposition non signataires de cet accord a pour l'instant échoué à faire taire les armes durablement. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Avant de refermer ce journal, cette information, 2 soldats israéliens ont été tués aujourd'hui et 8 autres blessés par un tireur embusqué qui a été ensuite abattu dans le nord de la Cisjordanie. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes. Ce sera comme chaque jour à 18h. Vous serez en compagnie de Delphine Allaire. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.